Salut, c'est la chanson du dimanche. La pêche.
3, 4. Toi, tu n'aimes pas les gens lents qui parlent au moment, qui te font perdre du temps. Tu n'aimes pas les gens lents qui roulent comme des vieux sur la file du milieu. Du milieu. Ça, c'est vraiment énervant. Parce que toi, tu cours vite, tu roules vite, tu parles vite, tu penses vite, tu manges vite, tu bois vite, tu meurs. À passer leur commande au restaurant. Tu n'aimes pas les gens lents, ceux qui bloquent les gens dans les escalators. Oh oh oh, escalator. Oh, ça c'est vraiment énervant. Parce que toi tu cours vite, tu roules vite, tu parles vite, tu penses vite, tu manges vite, tu bois vite, tu meurs. Tu cours vite, tu roules vite, tu parles vite, tu penses vite, tu manges vite, tu bois vite.
Et si au lieu de courir vite, de manger vite, de parler vite, on faisait une pause? C'est ce que vous proposent Alexandre et Sophie aujourd'hui dans Zoom Écologie. Mais ne perdons pas une minute de plus, Zoom Écologie, tous les jeudis sur Fréquence Paris Pluriel, c'est parti. Zoom Écologie. Sophie, Delphine
et Alexandre.
106.3.
Fréquence Paris Pluriel. Il y a une dizaine d'années, j'étais tranquillement installé à mon bureau, derrière mon ordinateur, quand je reçois l'email d'une cliente. Je lis attentivement son message dans lequel elle dresse la liste des modifications à faire sur le site internet que nous étions en train de réaliser pour elle. Et tout en bas du message, un mot inconnu, 4 lettres. Un code, un anagramme, une faute de frappe? J'ai alors interrogé mon voisin d'Open Space. Il n'en savait pas plus que moi. Je retourne ses lettres dans tous les sens, creuse au fond de ma mémoire, fouille mon anti-sèche de Scrabble, rien. Je me résous, j'appelle la cliente. Bon, pour tes modifs, pas de problème, on les fait. Et d'ailleurs, tu les veux pour quand? Ben, me répond-elle, c'est marqué en bas du message. ASAP, as soon as possible. Ah oui, ASAP, as soon as possible, aussi vite que possible. Bon, je suis passé pour quelqu'un qui ne lit pas ses messages jusqu'au bout, mais c'est déjà moins grave que de ne pas savoir ce que veut dire ASAP, surtout dans ce monde de la communication. Et ce mot qui est devenu depuis cette époque ponctue fièrement la plupart des messages échangés entre professionnels. Car aujourd'hui, disposer d'un service rapidement, ASAP donc, semble plus important qu'un service de qualité. Le réflexe remplace la réflexion, dit Paul Virilio à ce sujet. Pourtant, c'est pas compliqué à comprendre, la vitesse engendre la frustration. Demandez donc à vos femmes ou aux amateurs de vin. Ce que vous faites avec le temps le respectera. Quand on fait les choses trop vite, on les fait moins bien. C'est mathématique. On bâcle, on ne profite pas, on s'implique moins dans les choses qu'on fait vite. Ne voyez vos amis qu'à l'heure du déjeuner de temps en temps, vous finirez seul. La vitesse engendre la solitude. Merci, merci, il y en a qui suivent. Et de cette course folle contre la montre, rien ne survivra. Ni le travail, ni la santé, ni les relations humaines, ni les relations sexuelles. Heureusement, la résistance s'organise. Ils ont les montres, on a le temps. Partout, des mouvements naissent qui nous rappellent cette évidence. Le plaisir vient de la lenteur. Et l'un de ces mouvements est le mouvement slow food. Et nous recevons aujourd'hui l'un de ses représentants, Jean-Christophe Lebrument. Bonjour Jean-Christophe. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en compagnie de Philippe Gargoff, je prononce bien.
Parfait.
Philippe, bonjour. qui est un web journaliste qui a publié quelques articles très intéressants sur cette question de la lenteur, donc on va en parler avec lui. Et nous sommes également en compagnie de Nel, qui sera notre invité musical aujourd'hui. Bonjour Nel. Et je suis bien sûr avec Sophie et Delphine, mes deux animatrices préférées, sachant que Delphine s'est enfermée à la technique aujourd'hui pour se punir elle-même de ne pas avoir trouvé le temps de travailler sur le temps. Bonjour Delphine. Et elle est avec Samy et Paul qui la regardent et qui la surveillent. Donc on va parler des mouvements de la lenteur aujourd'hui. Et on va commencer par le mouvement slow food. Alors Jean-Christophe, vous représentez le mouvement slow food aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire qu'est-ce que c'est que ce mouvement slow food ?
Reviens peut-être un petit peu sur l'histoire. Ça vient d'où ? Comment ça s'est créé ?
Alors c'est créé il y a une vingtaine d'années, c'est un mouvement qui, c'est une idée en fait, une autre idée de l'alimentation et initiative, c'est une idée de Carlo Petrini qui est fondateur du mouvement, je vais me rapprocher du micro, et c'est une réaction à l'arrivée des premiers fast-food en Italie, c'est bon hein ?
Oui, c'est un mouvement qui est parti d'Italie.
Voilà, c'est un mouvement qui est parti d'Italie mais qui a été fondé en France en fait, à Paris.
D'accord.
Et voilà, c'était une première réaction à l'arrivée des premier fast-food, et effectivement, Carlo Petrini, donc à...
Alors, on est en train d'installer le micro, là, je sais qu'il a fouillé un peu, le micro est à l'envers, c'est l'émission précédente, ils ont fait n'importe quoi, mais tout va bien, on a Nel à la technique, c'est vraiment tout fou le camp,
La glace à l'orange...
On s'est promis qu'aujourd'hui on se dépêchait pas, qu'on restait zen et qu'on prenait notre temps, et je veux dire, c'est un exercice de style.
Quoi qu'il arrive...
Ok...
Alors c'est un mouvement, donc vous dites qu'il y a...
Donc voilà, c'est un mouvement qui milite contre les effets dégradants du fast-food. Parce qu'effectivement, le danger, c'est que cette alimentation industrialisée fait appel, en fait, à des techniques de production intensive et fait qu'on va vers un appauvrissement des aliments, du goût. On va aussi vers une agriculture totalement aberrante et vers un problème lié à la sauvegarde de la biodiversité alimentaire.
Une standardisation du goût.
Standardisation
tout s'aimait les mêmes choses.
Parce qu'effectivement, dès lors qu'on essaye d'homogénéiser, de standardiser, du même coup, on fait des aliments qui ont le même goût. Et surtout, on fait en sorte que certains produits qui ont une forte valeur culturelle dans différents terroirs, différentes régions du monde, disparaissent. Pour la simple raison, c'est que ça n'intéresse pas ce type de cuisine industrielle.
Voilà. C'est un peu la défense, c'est comme dans la nature, c'est la défense de la biodiversité alimentaire. Est-ce que ça existe ce terme-là de biodiversité alimentaire ?
Oui, bien sûr, biodiversité alimentaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous séjournez 3-4 légumes, 4-3 fruits, quelques volailles, quelques vaches, du même coup, vous amoindriserez le choix au niveau du consommateur. Donc nous, on milite vraiment depuis 20 ans pour maintenir cette biodiversité alimentaire. C'est faire en sorte de se battre, pour faire en sorte que les gens puissent... respecter les cultures productrices de ces aliments et leur apporter les moyens de s'engager dans une agriculture durable, leur permettant d'apporter une alimentation de proximité aux populations locales. C'est vraiment maintenant notre grand...
Alors, un peu plus concrètement, ça fonctionne comment ? Il y a un regroupement national
Donc en fait, Slow Food, c'est un mouvement international. Nous sommes 100 000 membres dans le monde. Il y en a à peu près 2 à 3 000 en France. C'est un mouvement qui est organisé par... C'est des groupes locaux, en fait, groupes locaux qu'on appelle des conviviums. Voilà, et au sein de ces conviviums, les gens se rassemblent pour justement débattre, déguster, rencontrer. En fait, l'objectif du convivium, il est très simple. Moi, je parle parce que j'en ai mis un sur la rive gauche de Paris. C'est faire en sorte d'essayer d'apporter, de sensibiliser les gens adhérents et non adhérents, parce qu'on n'est pas du tout une association fermée. C'est pour ça qu'on a, on pourrait dire, tiens, en France, on a peu d'adhérents, on est 2000, mais on doit avoir 100 000 sympathisants.
Voilà. D'accord. Après, on peut venir goûter.
On peut tout à fait venir. Voilà, on peut tout à fait venir aux ateliers de dégustation pour rencontrer des petits producteurs, pour assister à des recettes de cuisine élaborées avec des produits de saison. que l'on peut reproduire facilement chez soi, parce qu'effectivement, c'est... En fait, ce que l'on propose, nous, c'est aménager des temps de pause, voilà, dans des vies un peu stressantes, comme ça, où c'est la course à tout. Notre proposition, c'est vivre un petit peu son alimentation slow. Voilà, se donner le temps de bien s'alimenter, parce que déjà, c'est bon pour la santé, tout le monde le sait maintenant. Et quelque part, le fait de bien s'alimenter fait qu'on voit un petit peu, on va au-delà des bords de son assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de sensibiliser le public qu'aujourd'hui, manger, c'est un acte agricole. Voilà, qu'on achète un aliment, on conscient d'un système. Et pour moi, je dis qu'il ne faut pas non plus taper toujours sur les mêmes. Si aujourd'hui, on a des produits de mauvaise qualité, c'est parce qu'on le veut aussi. Moi, je crois beaucoup au boycottage. Si le consommateur, donc enfin, on a un message très, très, très ferme qui dit voilà, on va. Si vraiment vous êtes perdu sur le choix alimentaire, si vous n'avez pas compris que aujourd'hui c'est peut-être dommage de faire parcourir des milliers de kilomètres un haricot vert bio, et que cet haricot vert, si on arrive justement à se battre pour qu'il soit respectueux de l'environnement, qu'il soit goûteux et qu'il soit justement rémunéré à son producteur, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de faire en sorte que cet aliment, on peut aussi parler des aliments de base, le riz, l'épeautre, puisse alimenter les populations de proximité et faire que nous, dans nos régions, dans nos terroirs, on puisse encourager, tout le monde connaît maintenant le concept de la MAP, hein, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour des jeunes producteurs, des jeunes éleveurs de s'implanter dans nos campagnes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une logique, essayer d'avoir les terres le plus grandes possible, d'avoir le maximum de surface, parce que quelque part aussi, les agriculteurs sont pris aujourd'hui dans des systèmes qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de faire marche arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous essayons de passer comme message, c'est ça. C'est vraiment essayer d'associer le plaisir et la responsabilité.
Alors, du coup, voilà. Vous travaillez avec les AMAP ou...
Alors bien sûr, on travaille avec les AMAP. C'est-à-dire qu'au niveau des conviviums, alors pour être clair, nous sommes 100 000 adhérents. Vous avez quelques milliers de conviviums dans le monde et nous sommes présents dans 50 pays. Voilà. Donc ces conviviums sont implantés soit dans les grandes villes, soit dans les campagnes. Lorsqu'ils sont implantés dans les campagnes, bien sûr, ils défendent leurs produits qui ont une forte valeur culturelle et des produits qui sont en danger. Pour la simple raison, c'est que en fait, le volume de production est incompatible à la demande des grandes surfaces, hein, et ils n'ont pas la possibilité de produire plus qu'ils ne peuvent. Pour la simple raison, c'est qu'ils ont des pratiques culturelles qui sont propres et demandent à être justement rémunérés. Donc, quelque part, des producteurs bio n'auront pas la possibilité de fournir plus qu'ils ne peuvent produire. Donc, dès lors qu'une AMAP est en projet, avec d'autres associations, mettons comme Terre de Liens, on peut intervenir ici pour les aider à s'implanter. Parce que c'est quand même c'est une aventure humaine, hein, de se lancer dans une agriculture propre, équitable et de taille humaine. Hein, ce n'est pas évident. Et donc, effectivement, nous soutenons les AMAP. D'accord. Aujourd'hui, ça s'appelle AMAP, mais le concept germait dans toutes les têtes il y a 20 ans.
D'accord. Donc, on comprend bien l'enjeu écologique, biologique de tout ça, mais par rapport à la lenteur finalement, est-ce qu'on peut revenir vers le concept? Quel est le lien avec
Le niveau du slow, c'est un combat. Moi, ça fait 10 ans que je milite dans le mouvement. Ça fait 5 ans que j'ai créé le Convivium Paris Mouffetard. Et je ne suis pas du tout professionnel de l'alimentation. Hein, je ne vends pas de marchandises, je ne vends pas de vin. On a une agence de trad, donc on est dans la communication, on a une vie très stressante. Donc déjà, je l'ai fait un petit peu par équilibre, parce qu'à force de foncer comme ça, on aime bien léger les temps de pause. Et tout compte fait, je me suis dit que le fait de se donner un petit peu des moments slow, prendre le temps de bien s'alimenter,
d'accord,
ça permet à s'ouvrir à plein de choses. Et encore une fois, c'est que les choix alimentaires que nous faisons ont un impact direct sur notre environnement et notre santé.
Mais au d'accord. quotidien, c'est un peu plus compliqué, non?
Non, ça dépend. En fait, il y a des... au quotidien, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le temps de...
Prendre du temps pour manger à midi, par exemple, etc., dans des vies urbaines un peu chargées.
Alors ça, c'est bien que vous en parliez, parce qu'effectivement, au départ, nous étions surtout sur des animations destinées au grand public. Faire en sorte de pouvoir, sur des ateliers d'une demi-heure, une heure, d'avoir la possibilité de les éduquer, mais leur donner des clés. Voilà. Ouais. Est-ce que l'on peut faire de la cuisine simplement? Arrêter d'acheter du produit industriel impacté. Est-ce qu'on peut refaire son marché, mettre en œuvre des produits simples, de saison surtout, et avoir la possibilité justement de pouvoir refaire la cuisine à la maison?
Ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a des solutions.
Il y a des solutions. Moi, je pense que c'est un problème de choix. Mettons, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais bien manger, c'est élitiste. » Alors, c'est élitiste pourquoi? Moi, je ne comprends pas en fait ce reproche qu'on nous fait, c'est élitiste. « Oui, mais bien manger, c'est cher. » Non, bien manger, c'est pas cher. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas demander à un artisan, on va accepter d'acheter une chaise faite dans les règles de l'art d'un certain prix par rapport à un produit industrialisé. On ne va pas demander à un producteur de faire une belle tomate, une bonne pomme de terre, un bon haricot, une belle volaille pour gagner exactement le même prix que celui qui va mettre en batterie 12 000 poulets. Donc bien naturellement, il faut que le producteur soit justement rémunéré. Je pense que c'est une priorité, en fait. Alors moi, je suis partie de ces gens, effectivement, où j'ai dit même à mes mômes, on va faire un petit peu moins de loisirs, moins de portables, on va essayer de s'intéresser un peu plus à ce qu'on mange. Je pense que c'est des priorités. Il y a 30 ans, le bien manger avec des plats simples, hein, parce que moi j'ai souvenir, hein, j'ai 47 ans, j'ai souvenir encore de ma grand-mère hein, qui faisait des... On était quand même pas mal à la maison. C'est des produits en daube, voilà, c'est des grands plats. Soit qu'ils faisaient appel à des matières nobles, soit à des premiers choix au niveau de viande, mais c'était quand même une cuisine familiale. Mais mine de rien, ça pesait quand même pas mal sur le budget. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans, si on se donnait la volonté de bien manger, c'était 25-30% du budget. Aujourd'hui, les priorités ont changé. Aujourd'hui, effectivement, on a fait des études, c'est 8-12%.
D'accord.
En même temps, il y a toujours un proverbe qui vaut, c'est le temps, c'est de l'argent. Donc effectivement, plus on va faire grandir un poulet comme il faut, etc.
Bah, nous, à notre niveau, le temps, c'est de la santé. Quoi. Genre, c'est, voilà. C'est, non, mais vraiment, c'est des choix. Hein. Donc, et puis, c'est vrai, pas vrai, cette histoire de prix, parce qu'on a fait des ateliers sur la pomme de terre, mettons. Voilà. Comment choisir une bonne pomme de terre? Comment faire des cuisines avec une bonne pomme de terre, des cuisines simples? Une bonne tomate, c'est quoi? Une bonne fraise, c'est quoi? Une bonne figue, c'est quoi? Et on peut faire... Là, on a fait un atelier, mettons, là, j'ai fait un atelier le mois dernier, sur stabiliser, puis j'étais content en plus, parce que j'avais des jeunes, des moins jeunes, c'était bien. Et on a fait un atelier, on appelait ça « Légumes et fruits d'automne ». Voilà. Et Anthony, qui est un jeune chef, je lui ai dit, voilà, le challenge, c'est qu'on va prendre le navet, les épinards... et avec ces légumes-là, qu'on boude un petit peu, parce que tout le monde a les souvenirs d'école, des épinards, voilà. On va se donner le temps de faire une recette sympa et mettre un petit peu de ludique dans tout ça. Voilà.
Donc
on
va prendre sympa et simple.
Bah, simple, parce qu'effectivement, tout le monde cavale un petit peu. Et il faut... Mais voilà, nous, on trouve important de... Et pour répondre plus largement à votre question, c'est que ce sont des débats qui sont tellement compliqués à mener sur le terrain. Parce que la campagne, c'est quand même un monde dur. Il faut toujours laisser le temps au temps. Faut sensibiliser, faut jouer la cohésion, jamais la confrontation.
D'accord.
Donc le fait de pouvoir...
Qu'est-ce qui est dur, c'est de sensibiliser les agriculteurs, vous voulez dire, à ça?
Bah déjà, il faut sensibiliser les agriculteurs.
La filière agricole, la filière alimentaire,
agricole, bientôt, et puis en plus à notre niveau, parce qu'on est tous bénévoles. Hein, donc on a des expertises en interne au groupe, qu'on doit vraiment expertiser certaines situations, apporter des solutions. Mais rien ne se fait. Je prends un cas, là je soutiens une sentinelle, qui est la sentinelle, la petite vache bretonne pinoire. Déjà, c'est quoi une sentinelle?
Ah oui, les sentinelles, il faut expliquer le concept.
Ouais, c'est un concept des sentinelles. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 20 ans, nous avons mis en place des projets de sauvegarde d'aliments. C'est-à-dire lorsque certains agriculteurs, certains maires nous disaient « Voilà, moi, dans ma région, je produis telle lentille, on la produit plus depuis telle année parce que, si mettons, on prend la sentinelle lentille de la planèse, lentille blonde de la planèse, naturellement, sa petite sœur verte d'à côté...
C'est dans quelle région, ça, la planèse?
Alors, c'est dans le Cantal.
Dans le Cantal,
vous savez qu'on a le plus grand volcan d'Europe qui est dans le Cantal.
D'accord.
Le plus grand volcan d'Europe, voilà. Et donc, en fait, la planèse, c'est des coulées de lave et...
D'accord. Et donc ça donne une lentille
longtemps,
particulière.
Voilà, ça donne une lentille qui n'est pas forcément plus chère que sa petite copine, sa voisine, la verte, mais qui a cette qualité gustative.
Qui n'est pas du tout exploitée par l'industrie alimentaire, donc qui disparaît en fait.
C'est impossible. De toute façon, en fait, cette lentille-là, alors au niveau du goût, c'est superbe, mais elle a une coque, une peau très fine. Et si on ne se loupe pas sur la cuisson, ça fait vraiment une superbe lentille.
Une bonne lentille. Ça, c'est chouette.
Donc, voilà.
Donc, si je comprends bien le concept de Sentinelle, c'est vous identifiez des produits locaux qui ont disparu, qui sont en voie de disparition, et vous essayez de les valoriser.
On va prendre deux exemples. En mettant la lentille, elle avait totalement disparu. On a retrouvé en fait des semences, des graines, et on a relancé la production.
Et comment on retrouve des semences d'une lentille qui a disparu, concrètement?
Mais en fait, on ne tape pas aux portes des agriculteurs, mais généralement, ce sont les agriculteurs qui viennent vers nous en disant « Écoute, voilà, il me reste telle semence, telle lentille. »
Dans leur grenier, il leur reste des semences de lentilles.
Tout à fait, ouais, le cas de la lentille, c'était ça. Ouais. Et ben, en plus, c'était un beau projet, parce qu'il y a un beau projet social derrière. C'est-à-dire que le fait de relancer la lentille a permis de créer des emplois, mais aussi des emplois dérivés. C'est-à-dire que quelque part, il y a aussi une volonté de tisser du lien et d'aller de l'avant en sauvegardant ce produit de terroir à forte identité culturelle. Donc là, mettons pour le langue de la lentille, on a associé ça aussi avec une petite manufacture de conditionnement. On a pu permettre à des gens qui étaient un peu handicapés d'avoir un job. Et maintenant, ils travaillent beaucoup parce que c'est une lentille. Et c'est une lentille qui coûte un petit peu plus cher. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas supporter le phytosanitaire. C'est que de la culture bio et de la,
d'accord,
et de la production. Voilà.
Alors, on voit Philippe Gargoff qui écoute attentivement tout ça.
Mmh. Oui, alors... Philippe Gargoff, qui est un web journaliste, on dit ça comme ça ?
Ouais, ben j'ai surtout en fait une casquette de consultant freelance sur l'imaginaire des villes et des mobilités.
D'accord. Donc,
pour ça que je me suis intéressé aux nouvelles tendances qui émergent aujourd'hui au niveau de la ville et des mobilités, et notamment la lenteur et la marche, qui est quand même quelque chose qui commence à arriver. Pour plusieurs raisons, enfin, le mot équilibre a été dit tout à l'heure, hein. Là aujourd'hui on arrive à un niveau de saturation en termes de vitesse et de toujours plus vite, qui est aussi lié à l'arrivée des nouvelles technologies, au progrès technique tout simplement depuis la révolution industrielle, qui fait qu'aujourd'hui on peut plus continuer dans cette voie là qu'il y a un problème de saturation, un problème de déséquilibre, de plus trouver le temps de manger. L'heure du déjeuner elle a diminué, je crois qu'aujourd'hui le déjeuner c'est quelques dizaines de minutes, pas plus, en moyenne pour les Français. Donc toute cette problématique, voilà, c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et il y a un lien direct avec la slow food, enfin avec le mouvement slow food, puisque c'est parti d'Italie. Et puis ça, c'est le discours sur le ralentir au niveau de la gastronomie a un peu débordé vers les mobilités. Et aujourd'hui, on parle de slow city.
Ouais.
Et ça vient aussi d'Italie, ça vient du même courant.
D'ailleurs, mais pourquoi tous ces mouvements viennent d'Italie ? On a une explication à ça ?
Je pense que c'est l'héritage peut-être.
Oui, je pense aussi. C'est-à-dire que c'est très régionalisé et quelque part, il est vrai que, mettons, en France, on a certaines scènes qui ne peuvent pas exister en Italie.
D'accord. On va revenir peut-être en deuxième partie de l'émission sur les autres mouvements slow.
Ouais.
Donc effectivement, Philippe, on vous a invité parce que vous avez publié quelques articles sur le web qui sont intéressants. On donnera les liens tout à l'heure. Ils seront également sur le site. Je veux juste terminer pour slow food, si vous me permettez, pour comprendre exactement. On a compris à peu près la philosophie du mouvement slow food, hein, qui est de perpétuer des traditions alimentaires, de préserver, de retrouver le plaisir du partage du moment du moment du repas, de
plaisir et responsabilité, ouais.
De privilégier l'alimentation locale, etc. Mais maintenant concrètement en termes d'action, vous avez beaucoup parlé d'ateliers. Donc concrètement, le mouvement slow food, c'est des ateliers où on va goûter des produits, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme action ?
En fait, il y a différents types d'approches. Nous, sur Paris, vous avez trois conviviums, chacun une approche différente.
C'est chacun vrai que fait ce qu'il veut, d'accord.
On essaye d'être complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, chacun faisait ce qu'il voulait. Puis un petit peu, on s'est fédérés, on s'est dit, voilà, il y a quand même, on essaye de toucher le maximum de gens dans notre démarche. Donc, comment pouvons-nous être complémentaires ? Donc, nous, effectivement, à Paris, vous avez la possibilité de participer à des représentations de films, avec des débats. Vous pouvez aussi participer à des ateliers de dégustation. On programme des fois des visites aussi chez des producteurs. Ça bouge beaucoup. C'est-à-dire ça
et comment on peut être au courant des activités ? Il y a un site, il y a quelque chose ?
Alors, il y a le site national qui est slowfood.fr, mais là aussi c'est très ouvert comme mouvement. On a la possibilité, chaque convivium a la possibilité de faire son produit de communication. Donc, nous, on a un site
Ce que vous me dites, ça m'intéresse. Oui. Demain, je vais rejoindre le Slow Food Paris Mouffetard. Comment je fais ?
Alors, vous faites lesgourmetexplorateurs.com, hein, parce que justement, à la demande de jeunes, ils voulaient une petite appellation plus rock'n'roll que slow food. J'aurais dit, allez, ok, on va faire un réseau social, les gourmets explorateurs de slow food Paris Mouffetard. Donc, le site, c'est mon fils qui l'a fait, on n'a pas de budget, hein, donc il n'y a pas de pub, il n'y a rien, on vend rien. Et on appelait ça lesgourmetexplorateurs.com. Hein, et là, vous avez sur ce site internet un exemple des ateliers que l'on fait. Et sinon, pour les informations concernant les autres conviviums nationaux ou parisiens, de toute façon, en passant par slowfood.fr, vous avez accès à tous les conviviums. Donc, d'accord. Si un Parisien est intéressé par la démarche, s'il est un...
On va faire une petite pause. On a fait un petit reportage, on a été interviewé, c'est les Suisses, pour savoir ce qu'ils pensaient de la lenteur. Là, c'est une petite boutade, et ensuite, on fera une petite pause musicale avec Nel.
À la lenteur. Quand on dit qu'un Suisse est lent, vous en pensez quoi ?
Je pense que c'est assez correct. C'est un pays un peu reclus en Europe, isolé si tu veux. Et on a, je crois, oui, la possibilité d'être un peu plus lente que les autres, en fait. Alors je pense que c'est un privilège, un luxe de pouvoir être un peu plus lente, pas toujours hâté stress. Voilà.
Donc c'est pas un cliché.
Non, pas tellement. Ceux qui sont vraiment lents en Suisse sont les Bernois. Moi, je suis Zurichois, Suisse-Allemand, mais là, à Berne, on dit toujours que ce sont les Suisses les plus lents.
Voilà. Et pourquoi?
Aucune idée, une raison culturelle. Ça fait seulement 100 km entre Berne et Zurich, mais une grande différence de vitesse quand même.
Les Suisses sont vraiment lents. Il y a deux choses différentes. On est lent, mais on est efficace. On travaille, je pense que les gens qui aiment leur travail, travaillent vite et bien. Mais typiquement, pour faire nos courses, on va prendre le temps. Pour, quand on marche, on prend le temps. On prend le temps de vivre. Mais quand on travaille relativement efficacement, surtout du côté suisse-alémanique. On a d'ailleurs fait une petite statistique. Donc les Suisses les plus lents à traverser les passages piétons sont les Bernois, suivis des Vaudois. Moi qui suis une Suisse pas particulièrement classique, ça m'énerve beaucoup, particulièrement sur la route où les gens sont vraiment très très lents. Mais parole d'étranger ici, il paraît que ça fait partie de notre qualité de vie, que les gens sont pas trop stressés et que du coup ils ont le temps d'être souriants et un peu plus sympathiques qu'à Paris. Voilà, moi ça m'agace.
Voilà, on va faire une petite pause musicale. On a invité Nel aujourd'hui qui nous interprète en direct, en live et en acoustique. Une chanson de son album Crank. C'est parti.
Est-ce que je m'assois, pleure et baisse les bras? Est-ce que j'attends que ça s'arrange tout seul? Est-ce que je sors courir dehors entre les vivants, les morts? Est-ce que je dois dormir encore tout seul? Est-ce que tu sais que je t'ai cherché entre les mentées, les peupliers? Est-ce que tu m'entendais siffler tout seul? Est-ce que je m'assois, pleure et baisse les bras? Est-ce que j'attends que tout s'arrange tout seul? Est-ce que tu sais que tu me hantes entre mes ancrées, mes hippocampes? Est-ce que tu m'entends quand je te chante tout seul? Ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 da, ta da 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 da. Est-ce que tu sais que tu me manques? Est-ce que tu sais que tu me manques? Est-ce que tu sais que tu me manques? Est-ce que tu sais que tu me manques?
Bravo, bravo, merci beaucoup Nel. Alors Nel, tu as posé sa guitare, voilà, on l'a interrogé un petit peu, merci d'être venu, c'est super. Ça met une ambiance, la musique dans le studio, à chaque fois c'est magique quand même. Hein. Alors Nel...
C'est assez long, par rapport au thème, ça va.
En tout cas, on a respiré, c'est l'essentiel. On a été à notre rythme. On en parlera avec Philippe tout à l'heure. Nel, ça fait un moment que tu es dans la musique.
Oui.
Plusieurs albums déjà. Et un dernier album qui est sorti en 2009 qui s'appelle Crank, qui est décrit comme une fable pop ou une fable punk. Une sorte d'album concept de 17 chansons, donc c'est déjà assez rare, avec un spectacle dont j'ai vu un bout qui est très impressionnant et très puissant, si je peux me permettre. Donc un spectacle sur lequel tu tournes depuis 2 ans. Et donc cet album concept, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Cornelius Crank, qui est l'héritier orphelin d'une famille enfermée sous les glaces, si j'ai bien compris, qui suite à une coupure de courant s'est trouvé décongelé un peu trop vite. Et Crank, il a perdu toute sa famille comme ça, il s'est retrouvé orphelin. Et il se demande un peu ce qu'il lui reste quand on ne croit pas en Dieu et qu'on ne veut pas finir sous cellophane. C'est ça la présentation du concept. En fait.
C'est un bon résumé.
Donc comment on arrive à une idée pareille pour faire un disque
Sans prendre de drogue, je précise. non, mais ensuite, l'intérêt, c'était de suivre le parcours d'un personnage avec différents morceaux qui suivaient ses états d'âme, ses rencontres, des paysages qu'il pouvait traverser, des choses comme ça.
Donc c'est un personnage qui vient de loin et qui découvre un peu notre société, en fait, c'est une sorte d'observateur.
Non, qui se découvre lui-même plutôt.
Qui se découvre lui-même.
Voilà, d'accord. C'est un petit peu intemporel. J'ai pas voulu inscrire ça vraiment circonscrire ça dans le temps présent forcément, quoi.
D'accord.
Donc je voulais quelque chose qui dépasse un petit peu tout ça, donc pour pouvoir toucher le plus de thèmes universels possible.
D'accord. Alors sur scène, c'est beaucoup plus orchestré, évidemment. Là, c'est une version acoustique.
Ouais, bien sûr.
Donc, qu'est-ce qu'il y a comme instrument ?
Sur scène, on est 4. Il y a batteur, un bassiste, un gars au clavier, violon, aux machines, et puis moi, à la guitare et à la voix.
D'accord.
Principalement. Okay. Voilà.
D'accord. Et c'est plutôt du assez gros spectacle. Donc, c'est un spectacle qui se joue plutôt dans des scènes assez.
Oui, voilà. Ouais, salles, si on veut rendre justice à l'album, au son, au travail qu'on a fait, le spectacle a été créé en résidence. On a tout intérêt à le faire vraiment dans des lieux appropriés. Quoi. On s'est rendu compte, même si on avait envie de le jouer un peu partout, qu'on ne pouvait pas se le permettre, quoi, que très vite, ça desservait le propos du spectacle.
Donc tu tournes maintenant ce spectacle depuis 2 ans déjà. Est-ce que
un an et demi plus.
Un an et demi, d'accord. Ouais. Et tu travailles parallèlement, tu m'as dit, sur quelque chose de très différent où t'es...
Ouais, en même temps, moi j'ai toujours besoin d'avoir des projets sur le feu, sinon ça va pas, quoi. Donc parallèlement à ça, j'ai aussi besoin de... Enfin, je travaille sur des nouvelles choses et je travaille tout seul là, par contre, j'avais besoin de quelque chose qui soit le contrepoint de ça, c'est-à-dire de beaucoup plus léger.
D'accord.
Que je tourne tout seul, je suis vraiment en guitare-voix avec une petite machine. Et tout à fait
dans un autre univers d'écriture, c'est plus le personnage de Cornelius.
Ah non, pas du tout. On est dans quelque chose qui est. Bon, je chante en anglais, en allemand et en français. Donc j'essaye aussi d'autres choses là.
D'accord, ok.
Mais l'idée avec Crank, c'était vraiment de retrouver un petit peu ce que c'était que le sens.
L'album Crank, il est que en français ?
Oui, qu'en français.
Mais il n'est pas parti forcément au départ de l'idée. Tu t'es pas dit je vais écrire un album en français. Ça s'est fait petit à petit.
En fait, ma culture n'est pas du tout française.
D'accord.
Elle est vraiment anglo-saxonne au départ. Je me suis mis au français parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire avec le français, que c'était, il y avait encore des tas de choses qui n'avaient pas été faites.
D'accord.
Que des gens ont ouvert des portes, ont ouvert des voies, des gens comme Jean Fauque avec Bachung et des gens comme ça. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un rapport à la langue que je trouve très intéressant parce que la langue est utilisée comme un matériau sonore aussi. Où le son et le sens sont aussi importants l'un que l'autre.
D'accord.
Et je trouve qu'en français, ça se faisait pas beaucoup. Moi, je me démarque vraiment, enfin, en tout cas dans mon intention et dans les gens desquels je me sens proche, c'est de se démarquer d'une chanson traditionnelle française qui est très attachée au texte plus qu'à la musique, avec une musique qui est un petit peu interchangeable derrière et qui sert un peu de prétexte à un message qu'on a apporté.
D'accord.
Moi, c'est pas tellement dans cette école-là que je m'inscris, quoi. Et là, par contre, j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus... beaucoup plus dépouillé, beaucoup moins lourd de sens, même si Crank n'est pas forcément lourd, mais quelque chose de beaucoup plus musical. Donc du coup, le recours à l'anglais a été une première approche. Mais j'ai aussi d'écrire des choses en français et en allemand. Parce que...
Est-ce que tu as une date à donner sur Paris bientôt ?
Pour Crank, oui, le 22
oui,
janvier.
Tu me l'as donné tout à l'heure.
Voilà, le 22 janvier au Théâtre Traversière.
Le 22 janvier au Théâtre Traversière, d'accord.
Voilà,
on peut retrouver toutes ces informations sur ton site internet qui c'est donc nel.com. Donc Nel, ça s'écrit N-E-S-L-E-S. N-E-L-N-E-S-L-E-S. Je vais y arriver. Donc merci beaucoup. On écoutera tout à l'heure une deuxième chanson en toute fin d'émission de Nel. Est-ce que j'ai pensé à donner le CD à la technique ? Non, j'ai pas donné le CD à la technique, donc on va se débrouiller. Je dois l'avoir posé quelque part. Bon, enfin, on écoutera une deuxième chanson de l'album qui est donc la version album tout à l'heure. Et puis on revient à notre thème du slow food.
Alors, à partir du slow food, il y a eu plein de dérivés, on va dire, Jean-Christophe. Il y a le slow city, cité slow, avec... On a beaucoup entendu parler, puisque Segonzac a été la première ville en France en mai de cette année à devenir cité slow. On suppute que Bondy pourrait le devenir d'ici pas très longtemps. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si vous avez les mêmes échos. Bondy.
Ah bon, moi j'ai entendu parler de la ville de Grigny surtout. Grigny dans en Rhône.
Grigny, Bondy.
Grigny, Bondy, bon. C'est pas le même genre.
À voir. À côté du site à Slow, il y a le Slow Travel. Ça vous dit quelque chose,
le Slow Travel, oui. Ouais, je connais bien parce que ça, c'est une partie un petit peu des États-Unis. C'est un petit peu dans la logique, hein, prendre son temps à voyager, rencontrer l'autre.
Oui, alors d'ailleurs, vous avez aussi des projets à l'international. Je crois que c'est important d'en parler parce que ce n'est pas qu'une association locale qui fait des choses pour les Parisiens.
On est quand même un mouvement international. Et c'est bien parce que effectivement, nous intervenons dans pas mal de pays. Et là, nous soutenons sur Paris un projet Acadie. Il y a un convivium qui s'appelle Convivium Acadie Mali. Et c'est un beau projet, ça, c'est soutenu par une ONG. Et donc, c'est un concept tout bête, en fait, de séchoir solaire. C'est-à-dire qu'on a un programme d'alphabétisation de femmes. Déjà, dans un premier temps, on a une volonté de les aider pour s'approvisionner en eau. Et découle de tout ça, en fait, un apprentissage au maraîchage pour leur apprendre à bien conduire en autonomie un jardin, leur permettant pendant les 3 mois de l'année de pouvoir faire pousser des légumes. Le problème, c'est qu'une fois que les légumes sont cueillis, les conserver coûte très cher. D'où là, justement, l'originalité du projet Acadie. Acadie, ça veut dire c'est bon. C'est de leur fournir un matériel.
En malien, c'est ça ? Hein ? En malien, ça veut dire c'est bon en malien ?
En mambalé, si je ne dis pas de bêtises, mambalé. Mais alors je ne m'en souviens plus par cœur. Et en fait, c'est un concept sympathique. Pourquoi ? Parce qu'il coûte peu cher. En fait, c'est découper les légumes une fois cueillis, les mettre dans une sorte de grande bassine, remettre une grande bassine dessus, mettre ça au soleil. Et le fait de les protéger des UV fait que le légume garde tout son apport vitaminique. Et ensuite, les conditionner sous vide et les mettre à disposition de la population locale dans une petite épicerie à côté de Bamako. Voilà. Avec peu de choses, on peut faire de grandes choses. Voilà. Mais par contre, ça prend du temps. C'est là où c'est vraiment du projet slow. C'est-à-dire que... le Mali, c'est quand même un pays avec une prise en compte culturelle forte. Voilà. Donc, on va soutenir le 14 décembre sur Paris, dans le 5e, ce projet Acadie. En plus, c'est Fanny Bréchard qui est présidente de Slow Food Land et qui est à l'origine de cette association.
Voilà. D'accord.
Donc, super intéressant.
C'est aussi une intervention dans les pays du Sud et les pays pauvres. Alors... Et dernière juste petite chose, c'est que là, on passe à l'étape numéro 2. C'est qu'en fait, cette expérience-là, va peut-être dépulquer. C'est le gouvernement malien aimerait maintenant que cette aventure-là puisse se dupliquer dans les autres arrondissements du Mali. Et c'est un projet qui a été retenu par Slow Food International et Terra Madre et qui lui permet aujourd'hui de prétendre à être dupliqué dans le programme 1000 jardins pour l'Afrique. Voilà.
D'accord. On va
juste, on continue peut-être sur le catalogue à la Prévert. On est passé du slow travel.
Oui, pardon, excuse-moi, je t'interromps.
Comme ça, un peu. Mais je t'en prie, en plus, c'est intéressant parce que du coup, on a parlé de l'Afrique, mais il y a quelques autres déclinaisons, le slow build, le slow homes, c'est les standards de l'habitat, je crois, sortir un peu des standards de l'habitat, le slow school, le slow musique, le slow design. La différence, je la vois pas bien. Le slow sex, c'est intéressant.
Ouais. Bah, je sais pas, moi, je pratique pas. Il y a slow naze aussi.
Mais qu'est-ce que vous pensez un peu, plutôt que de les aligner les unes après les autres?
Je trouve que c'est bien. De toute façon, c'est vrai que de toute façon, dans cette réalité, on va dans le mur. J'ai la force de vivre comme ça, comme des fous furieux, on se tire une balle dans le pied, quoi. On est complètement abêtisé, il faut arrêter. Alors, des gens trouvent plaisir à mieux s'alimenter, à faire la cuisine, à recréer du temps social, de la convivialité à la maison. D'autres plus pour le voyage.
Alors justement, sur cette philosophie, j'avais très envie qu'on lise un texte aujourd'hui, et c'est Delphine qui va s'y coller avec cette douce petite voix. C'est un texte extrait d'un petit livre que je vous recommande qui s'appelle « Petite philosophie du marcheur » qui est écrit par Christophe Lamour, qui est un prof de philosophie dans le sud de la France, je ne pourrais pas vous dire exactement où, qui est paru aux éditions Milan. Il y a un petit chapitre sur la lenteur qui est tout mignon. Et donc, on va écouter Delphine nous lire ce texte. Delphine, t'es prête ? Parce qu'elle discute, mais elle est prête, on l'écoute.
Seule la lenteur nous plonge dans un monde aux mille attraits, aux crunes d'une nature infiniment riche et divertissante. Le mouvement lent, car la lenteur est mouvement, expose le détail et la finesse des apparences que nous ne soupçonnions pas. La marche est un mouvement lent et c'est à ce titre qu'elle nous introduit dans la diversité et la beauté du monde. Nous cessons de regarder les apparences et nous commençons à les regarder, peut-être même à l'usage, finissons-nous par savoir les contempler. L'activité de contemplation, la plus haute des occupations de l'être humain selon la philosophie antique, est aujourd'hui discréditée et oubliée. Plus personne ne songe à entrer en contemplation parce que c'est ce qui réputée valoir, c'est la prise, la possession, l'assimilation. L'aptitude à conserver une juste distance, par laquelle la chose vue n'est pas accaparée, mais seulement admirée, devient une aptitude rare. La marche enseigne cet art grâce auquel le monde suscite le recueillement et le respect. L'aspiration à la beauté et à la sérénité rencontre une satisfaction profonde dans cette relation à la nature. Enfin, libérés de l'envie et de l'avidité, nous jouissons du monde tel qu'il est. Nous ne l'appréhendons plus sous le rapport de l'usage et de la propriété, nous le regardons comme ce qui était là avant soi et demeurera après soi. Et nous éprouvons dans ce sentiment d'une réalité qui nous dépasse une quiétude nouvelle. Il y a une puissance propre à la lenteur et qui se traduit fort exactement dans l'expression « poison lent ». On signifie par là que l'effet tarde à se manifester, qu'il est progressif, mais aussi qu'il est implacable et pénètre sûrement chaque vaisseau sanguin. Toute lenteur, et en particulier celle de la marche, présente cette caractéristique de faire son effet progressivement et de produire au final une impression d'une rare puissance, parce qu'elle parcourt la totalité de l'être.
Donc la lenteur, donc, très joli thème. Et moi j'avais envie d'inviter Philippe aujourd'hui. Bon, Philippe, on l'a dit, a écrit plusieurs articles, on les a presque tous lus sur Internet, donc c'est très intéressant.
Et c'est quoi, c'est sur Pop Art, c'est ça?
Mon blog, ouais, c'est Pop Up Urbain, et en fait là c'était des articles qui étaient publiés sur OVNI, qui est une plateforme
site de data journalisme, ouais,
voilà, très, très intéressant d'ailleurs. Et il y a notamment un article qui m'a vraiment intéressé où vous essayez de nuancer un peu ce propos sur la lenteur. Alors, et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée l'autre jour. J'étais sur un mont Vélib dans Paris. Et moi, j'utilise le Vélib avec grande fierté en disant que je fais partie des gens lents, etc. Sauf que je me suis rendu compte sur mon Vélib que pourquoi je prenais un Vélib ? Je prenais un Vélib pour aller plus vite. Parce que le Vélib, c'est très efficace pour aller plus vite.
C'est ce qu'a chanté finalement... Joe Dassin. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos.
Alors finalement, ce que vous dites, je trouve que l'introduction de votre article, il me plaît bien. C'est-à-dire que finalement, la lenteur, c'est aussi une question de référence. Mmh. Et vous parlez, vous intéressez notamment aux marcheurs, et vous constatez que la marche, elle est souvent contrainte et forcée. Il n'y a qu'à regarder les gens dans le métro. Finalement, la marche, ce n'est pas du tout le synonyme de la lenteur. Ce n'est pas du tout forcément de la lenteur. Mmh. Quoi. Bon. Et donc vous attaquez plutôt au mouvement. Vous dites que plutôt que s'attaquer à la vitesse, attaquons-nous au mouvement. Et donc vous incitez à un mot que vous inventez, je ne sais pas, qui s'appelle la démobilité. Vous nous en parlez un petit peu ?
Alors ouais, la démobilité, je n'invente pas ça. Moi j'hérite l'usage du terme de mon ancien employeur, que je salue d'ailleurs, puisque c'est lui qui m'a initié à tout ça. C'est Bruno Marsloff et le groupe Chronos. Mais c'est un mot qui existe et qui n'a pas de propriété idéale. On peut en parler, en fait, je voulais juste revenir très légèrement en arrière. Tout à l'heure, on a parlé Cita, Slow, on a parlé slow Design, etc. C'est bien pour dire qu'il y a une tendance aujourd'hui émergente qui met la lenteur en avant, et que la problématique, c'est que aujourd'hui, certains, par exemple les opérateurs de transport, les constructeurs auto, etc., on le voit avec la voiture électrique, reprennent cette tendance de la lenteur et la mettre au service de quelque chose qui n'est pas forcément si pertinent que ça, qui est la consommation d'espace et de temps à travers la mobilité. Et que tout à l'heure, quand on parlait de la saturation et de l'équilibre, c'est que même en allant lentement, on le voit avec la marche dans le métro, et je me suis pris comme modèle quand j'ai écrit cet exemple. Moi, quand je suis dans le métro, je fonce comme un bon Parisien, je suis très marqué par ça, et j'arrive pas à en sortir, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis posé ces questions. Mais,
donc la marche n'est pas encore la solution, quoi.
La marche, c'est pour ça que l'article alors, s'appelait « Déconstruire un peu le mythe de la lenteur salvatrice », c'est de dire « c'est une bonne chose la marche en soi, mais il ne faudrait pas que ça cache le vrai problème qui est qu'on bouge de plus en plus et qu'on est incité à bouger de plus en plus, à avoir de plus en plus de mobilité qui est de la consommation de ressources spatiales, temporelles, énergétiques, etc. Quand on utilise un Vélib, on est peut-être plus lent entre guillemets, parce que ça reste à vérifier, que les voitures et dans Paris, mais on consomme encore de l'espace, et on en consomme peut-être trop. Et la démobilité, c'est de dire, peut-être arrêtons tout simplement le mouvement en utilisant certains outils qui peuvent être le numérique. Alors on pense au télétravail, par exemple.
Oui, alors ça, c'est quand même un paradoxe, et c'est ça qui me gêne quand même dans cette conclusion, c'est qu'on arrive à ce paradoxe où les nouvelles technologies qui portent en elles l'idée de la vitesse et de l'instantanéité, ça pourrait être la solution justement pour plus bouger. Donc je suis tout à fait en phase avec le début de votre article, et puis à la fin, ça me gêne. Je me dis, bah non, si la solution, c'est de travailler chez soi devant son ordinateur, y a un truc qui me dérange.
C'est pour ça que je dis que...
Il n'y a pas les nouvelles technologies, ça me dérange aussi, même si je suis plutôt accro aussi, de la même façon, c'est qu'on ne s'arrête plus de travailler non plus. Quand on fait du télétravail, comment on s'y prend ? Enfin, le temps, il est extensible. Et,
mais je crois que c'est aussi un choix, ça. Parce que
c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, pousser la logique au-delà. Le télétravail, ça reste de la mobilité numérique. C'est juste qu'on ne se déplace pas, donc on évite la consommation de certaines ressources. Mais ça reste une mobilité et ça reste une logique de toujours plus vite, toujours plus de travail, etc.
Parce que renvoyer ses mails à 11h le soir ou pendant le week-end...
C'est pour ça qu'il faut peut-être aller au-delà et se poser la question de qu'est-ce qu'on attend au niveau social du travail, du déplacement, etc. Est-ce que, est-ce que tout ça, c'est des choses qui ne doivent pas être mises en question ? Tout simplement. C'est pour ça que le télétravail, c'est un des outils qui permet de se déplacer moins, mais qu'il faut, à mon avis, poser la question plus loin.
D'accord. Sur un de vos articles, vous citiez une conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps sur la ville en mouvement. Je ne sais pas exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se dit à ces conférences, en fait ?
Alors, je pense que je citais donc, un forum sur la marche.
C'est ça.
Voilà. Qui disait que c'est donc organisé par Chronos, mon ancien boss.
Et c'est qui ces gens qui se regroupent ?
Les gens qui se regroupent, c'est des urbanistes. C'est des urbanistes, c'est la RATP, qui aujourd'hui tient par exemple la RATP, je pense à Georges Amar, qui est directeur de la prospective à la RATP, qui tient un discours très volontariste sur la marche. Et ce qui se dit, c'est qu'il faut ralentir les flux, il faut accompagner le développement de la marche dans les couloirs du métro, dans les villes, dans les espaces urbains. Il faut reconstruire la ville de manière à ce qu'il y ait moins de déplacements automobiles et plus de déplacements possibles en marchant. Mais ce qui se dit aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on stoppe notre croissance de déplacement, puisque les gens qui tiennent ce discours vivent grâce à la croissance du déplacement qu'ils permettent, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire le mythe et de la vitesse qui est en train de se déconstruire à travers cette tendance du slow food, slow city, etc., et le mythe de la lenteur, à mon avis, qui est un peu aujourd'hui utilisé comme on va dire une poudre aux yeux qui cache un peu le vrai problème de l'accélération de notre société en général.
Il y a une valeur dont on ne parle jamais dans ce débat, et c'est peut-être complètement hors sujet, mais une valeur en laquelle je crois, c'est le nomadisme. Il y a eu une exposition il n'y a pas très longtemps à Paris, là, justement, sur les nomades, et c'est vrai qu'ils ont l'air d'incarner justement tout ce qu'on recherche un peu dans ces mouvements, c'est-à-dire une espèce de simplicité en termes de mode de consommation, d'harmonie avec son environnement, de lenteur, d'ailleurs, de savoir apprécier les choses, etc. Peut-être j'idéalise. Mais j'ai jamais entendu parler de ce mot-là dans ces débats. C'est parce que je suis hors sujet ou...
Non, au contraire. En fait, il a émergé, mais il y a quelques années déjà, en accompagnant l'émergence des slow, etc. Mais en fait, il a été repris et il s'est métamorphosé. Il est devenu l'homme mobile. Avant, on parlait d'hyper nomade. Maintenant, on parle d'hyper mobile. Et justement, dans l'étymologie même du mot, on voit qu'on a oublié le sens qui était intégré dans le nomadisme, qui était de la lenteur vertueuse, pour mettre de la mobilité, et que même en marchant, on devient mobile, très mobile, trop mobile. Et donc en fait, le glissement sémantique de nomade à mobile est assez significatif du glissement qui existe aujourd'hui, dont je vous ai parlé, de réexploiter un peu la lenteur au service d'une croissance de la mobilité. Mais donc le terme a été porteur d'un certain imaginaire, il y a quelques années maintenant, et a été, on va dire, un peu détourné de son sens premier.
Et finalement, de ces débats, il en ressort quoi ? Enfin, qu'est-ce que concrètement il se passe une fois qu'on sort d'un forum comme ça ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises ? Est-ce que les gens ils ont changé d'avis ? Est-ce que la RATP refonte son discours ? Elle fait des... Je ne sais pas.
Alors la RATP, concrètement, par exemple, elle a une politique qui est intéressante, qui vient de Londres, enfin, des transports publics londoniens.
Qui marche très bien.
Qui marche très bien, peut-être. Je ne suis pas allé à Londres depuis très longtemps, mais qui ont justement, pour faire mieux fonctionner leur réseau, ont mis en place un programme qui s'appelle Legible London, qui consiste à indiquer aux usagers du métro qu'ils peuvent aller plus vite en marchant à pied plutôt qu'en prenant le métro pour certains trajets. Parce qu'en constatant que peut-être 20 à 50% des trajets sont plus rapides à pied qu'en métro. Quand on prend le métro pour deux stations, le temps de descendre, etc., on aurait mieux fait d'aller à pied. D'accord. Donc en mettant en place ce programme à travers des cartographies, notamment des cartographies et des chronotopes, des cartes qui indiquent les lieux accessibles en un certain temps de marche à pied, ils essayent de reconduire les flux en passant par la marche pour faire mieux fonctionner les métros. Est-ce que c'est à peu près clair comme méthode ?
Et en fait, la RATP,
on incite les gens à marcher pour faire mieux fonctionner les métros, donc pour pouvoir garantir la croissance de la mobilité en métro. C'est ça qui est un peu qui est un peu la contradiction. C'est pour ça que la marge dans cette acception, elle n'est pas forcément aussi durable qu'on l'entend à première vue. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, déconstruire un peu cette image très très belle du marcheur, parce que c'est pas forcément si vertueux que ça dès qu'on gratte un peu la première carapace. Mais donc la RATP, concrètement, elle s'associe avec les gens de TFL, donc Transport for London, pour essayer de partager ce discours, de diffuser ce discours, et peut-être faire des programmes similaires à l'Eligible London sur Paris.
D'accord. Jean-Christophe, vous marchez beaucoup, est-ce que vous allez au travail en marchant, Anna ?
Oui, par choix, oui, je marche beaucoup, je fais aussi beaucoup de kayak. Ah non, mais c'est tout à fait, oui, c'est une approche, mais bon, moi je l'applique parce qu'effectivement, on s'aperçoit très vite que des fois marcher, on va beaucoup plus vite. Mais effectivement, je suis un adepte de la marche.
Mais voilà, il faut juste distinguer pour moi deux marches. Il y a la marche qui est celle du rêveur, dont on a entendu tout à l'heure un extrait. C'est la petite philosophie du marcheur qui s'émerveille du monde et qui est en capacité de s'émerveiller parce qu'il regarde autour. Mmh. Et il y a la marche forcée, celle qui est liée à nos conditions de travail, au fait qu'on travaille de plus en plus et que le temps de travail grappille nos temps de loisirs et nos temps de vie familiale. Et cette marche-là, elle n'est pas forcément si positive que ça.
Ouais, ouais.
Et elle rentre, à mon avis, dans cette espèce de dogme du mouvement dont j'essayais de parler.
Dans un des articles, il y avait toute une critique de Virilio au départ.
Ouais, c'est peut-être un peu facile, c'était peut-être un peu de la vengeance personnelle, parce que Virilio, il est très intéressant, mais c'est vrai qu'en tant que jeune qui a été bercé par une certaine, on va dire, une certaine idéologie portée par les nouvelles technologies, c'est pour ça qu'il y a certaines contradictions que vous pointez, mais moi je suis un peu le bébé de cette mouvance, voilà. Virilio, il a parfois des postures un peu fatigantes sur le progrès technique, et notamment là, l'article auquel je faisais référence, c'était dans Vice Magazine, donc qui est un magazine assez sympathique de ma génération. Mais où il parlait de toujours les mêmes choses, vivre sans internet, vivre sans micro-ondes, vivre sans choses comme ça. Il a un discours qui moi me fatigue parfois un peu. Alors après, je voulais pas taper sur Virilio, je voulais juste me moquer gentiment de son espèce de fascination contre le progrès technique. C'était plus un petit.
Alors Virilio, justement, vous donnez ma transition là pour. Je vais peut-être avant de parler de l'agenda, je vais terminer le débat sur les manières d'en savoir plus. On a 5 minutes, c'est ça? Moins de 5 minutes, d'accord, ok. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille quelques livres. Donc il y a L'éloge de la lenteur, qui est un best-seller mondial, écrit par Karl Honoré aux éditions Marabout. La lenteur de Milan Kundera, qui est un court roman, roman-essai qui date de 95, dans lequel il dit, par exemple, le degré de la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Le grand accélérateur, évidemment, de Paul Virilio. Petite philosophie du marcheur de Christophe Lamour aux éditions Milan, dont on a fait un extrait tout à l'heure. Accélération, une critique sociale du temps du sociologue allemand que vous connaissez.
Hartmut Rosa.
Comme vous dites, Hartmut Rosa. Les sites internet de Slow Food, vous avez cité slowfood.fr, c'est ça ?
Slowfood.fr, oui, voilà. Qui vous permet de.
Site à Slow, on n'en a finalement pas beaucoup parlé, on l'a juste cité. Le site de Nel, je l'ai donné. Il y a un numéro spécial de Politis, un hors-série octobre-novembre sur Changer de société qui parle aussi de la lenteur et dans lequel on s'est inspiré pour faire cette émission. On n'a pas eu le temps, la dernière fois, on va parler de l'agenda. Il y a quelques rendez-vous qu'il ne faut pas
louper. Il y a deux, trois petits rendez-vous à ne pas louper. 24 au 30 novembre à la Pagode, c'est un joli cinéma indépendant, d'ailleurs le seul du 7e, qui organise le Festival international du film d'environnement. Intéressant à voir. Commence à partir du 20 novembre, c'est samedi, jusqu'au 28, la semaine de la réduction des déchets. Vous pouvez aller voir des infos sur www.réduisonsnosdéchets.fr. Et puis en troisième information, c'est le prix Pinocchio. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Il y a eu trois récompenses.
Qu'est-ce que c'est que ça, le prix Pinocchio? Le meilleur menteur?
C'est exactement ça. D'accord. Prix du développement durable donné par les Amis de la Terre, et c'est le meilleur menteur. Trois catégories. La catégorie droits humains, c'est le groupe Somdias qui a reçu le prix, 32% de vote dans sa catégorie, pour les impacts de ses activités de production et de transformation de canne à sucre. Je vois Philippe qui a l'air au courant. L'idée, c'était que l'extension, elle se fait aux dépens des communautés. Donc voilà, joli prix Pinocchio. Deuxième prix Pinocchio dans la catégorie environnement, c'est le groupe Eramet qui a eu 40% des votes. Les internautes condamnent la multinationale pour le projet de développement de la mine de nickel de Weba Bay. Ça, c'est en Indonésie, et pareil, au détriment des populations locales. Troisième prix Pinocchio pour le greenwashing. Les Français, c'est le Crédit Agricole. Ils remportent le prix avec 56% des votes.
Bravo.
Chapeau. C'était pour sa campagne de communication qui s'appelait « It's time for green banking ». Très facile, la banque y mettait en avant son sens commun. Alors qu'en même temps, parallèlement, en août, elle investissait dans la centrale à charbon de Mendupi en Afrique du Sud. Un projet évidemment polluant et qui décriait par la société civile internationale. Mmh. Voilà, intéressant.
Alors, je vais rappeler avant de conclure l'émission et avant d'envoyer un titre de Nel qu'on peut réécouter l'émission demain, vendredi, entre 11h et midi sur cette même chaîne, qu'on peut la réécouter sur le site de zoomecologie.net quand on aura compris comment on pose un MP3 sur le site, qu'on a créé une adresse email dont vous pouvez nous contacter maintenant, zoomecolo3@gmail.com, zoomecolo3@gmail.com, 3 comme troisième jeudi, puisque voilà. Je remercie infiniment nos invités, donc Jean-Christophe Brumand, Slow Food, Philippe Gargoff, journaliste, et Nel, qui est parti en courant parce qu'il a d'autres activités. Merci beaucoup. C'était Zoom Écologie, le troisième jeudi.
Juste une petite info rapide que j'ai vue et que je trouve intéressante. On parlait d'Internet tout à l'heure. Il y a une série de web documentaires écologie, La planète hors service, sur France 5, www.france5.fr. /PNM, il y a de super beaux web reportages.
Voilà, donc c'était Zoom Écologie, troisième jeudi avec Sophie Delphine dans la cabine technique Alexandre. Voilà, on se retrouve jeudi 16 décembre, enfin troisième jeudi du mois, on ne sait pas encore de quoi on va parler. Je lance le titre de mail et je termine par « Dépêchons-nous de ralentir ».
Sure.